Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, le Orech Yamim Tovim et Shanim Yamim. Nous poursuivons notre étude sur Yetziat Mitzrayim, en préparation de Pessah. Zainu Bishem Adonai Ose Shamayim Ba'aret. Dans Parashat Bo, il est indiqué que les Bnei Israël sont restés en Égypte 430 ans. En fait, ils ne sont restés que 210 ans. D'où sort ce concept de 430 ans? Les Mfarshim disent que 430 ans fait référence à 5 fois Elohim. Au milieu de Parashat Shemot, avant que Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe, et après que Moshe ait eu ses enfants, que la Torah raconte que Tzipora a accouché de Gershon, il dit là-bas, à la fin de ce passage, Vayi bayamim arabimaim, et ce fut en ce temps-là, Vayamot melech mitzrayim, Vayan hoben yisrael min ha'avoda. Donc la souffrance, l'oppression s'est aggravée. Vayan hoben yisrael min ha'avoda, Vayza'aku vata'a shavatam el Elohim. Ils ont crié, et leur plainte est montée vers Elohim, min ha'avoda. Donc il est marqué ici une fois Elohim. Vaishma Elohim et na katam. Le Seigneur a entendu leur cri. Vaiskor Elohim et berito. Donc il s'est rappelé son alliance, c'est Abraham et Sagweda. Vayar Elohim et berito. Vayeda Elohim. Donc ici il est mentionné dans ce passage-là 5 fois l'attribut Elohim. Et juste après il est dit Moshe Yaroet et son itro hotno. Kohen Midian. Après il est dit que Moshe était berger les troupeaux de Yitro. Et là, il est dit, juste après, Voyavo el hara Elohim horeva, Voyera malach Hashem elav, Belavat esh mitoche asene. Donc, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui dans la vision du buisson ardent. Mitoche asene. Voyar veine asene boer baer, je vais asene local. Donc il a vu qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette vision. Et il s'est dit, voyons, mais Moshe asurana veere tamare agadolaze. Donc il s'est écarté pour observer. Et là, il est dit, voyar Hashem kisa, irod vaikra elav Elohim mitoch asene. Donc Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé parce que Moshe s'est arrêté pour observer, pour comprendre la vision qui se dévoilait à lui. Et là, il est dit, alors c'est la discussion commence, et Moshe Rabbeinu refuse d'aller sauver les Bnei Israël. Alors, la question est toujours, pourquoi Moshe refuse? Alors, dans le Mfarshim, il est dit, Moshe, il a une véritable question. Pourquoi, si la vision, c'est une vision prophétique. Donc, il voit le buisson. Le buisson représente Am Israël. Le feu, c'est le galout. Il voit que le feu brûle, mais ne consume pas. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont encore que le galout ne peut pas exterminer Am Israël. Mais la question qui se pose à Moshe, c'est que si, comme le dit Akadosh Baruch Hu, le temps de la délivrance est arrivé, Moshe devrait observer et apercevoir que le feu s'amoindrit et qu'il tend vers l'extinction. Donc il doit y avoir un siman que le feu, que le galout va en diminuant. Et là, il ne le voit pas. C'est pour ça qu'il dit, alors la discussion s'engage. Et quand Akadosh Baruch Hu lui dit, donc Moshe comprend que le galout ne devait pas finir là et que la Géoula est accélérée. Alors où vont passer les autres années où les ministres devaient être oppressés? Donc ils vont passer dans les autres galoutes. Et c'est ça la véritable dimension du refus de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui dit à Kadosh Baruch Hu, laisse-les terminer les 430 ans. Puisqu'il est dit juste avant, donc nous avons cité que juste avant, il est dit cinq fois le terme Elohim. Donc qu'est-ce qu'il ressort de là? Il ressort de là que, en réalité, il devait rester 430 ans oppressé, une galoute terrible. Et ils ne sont restés que oppressés que 86 ans. C'est l'âge de Myriam. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'appelle Myriam, parce que dès qu'elle est née, l'oppression s'est aggravée. Donc où sont, qu'est-ce qui reste? 430 ans, 5 fois Elohim. Elohim, valeur numérique 86. 5 fois Elohim, c'est 430. Moins 86 ans, donc il reste 344. 344, c'est le Dor Hashmad. Ça fait référence aux Galouyot, aux autres Galouyot, aux autres exils. Shmad, c'est quand les empires ont exercé sur Âme Israël l'extermination, l'oppression totale, qui va se reporter dans les autres Galouyot. Et ça, c'est le point de refus de Moshe. Cependant, Kadosh Baruch Hu insiste, parce qu'il ne peut pas y avoir d'autres solutions. Ils sont arrivés au 49e degré de Touma, c'est-à-dire que le désespoir total. Si on rate, ils ne voudront. Si on rate ce point, c'est le point de rupture, si on veut. Donc ça, c'est le point essentiel. Le terme Elohim fait référence à la conduite naturel de ce monde. Donc, Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'Taharet. Donc, il y a ici, dans le récit de la création, 32 fois le terme Elohim. C'est la nature, c'est les règles de la nature telles qu'elles ont été inscrites et décrétées, érigées. Le mouvement des Olam Kemina Gonoeg, le monde le minhag du monde tel que le monde est créé, les règles de la nature et le mouvement des planètes est perpétuel. Il s'agit à présent de faire sortir Am Israël d'Égypte. Est-ce qu'ils peuvent sortir d'Égypte? Donc, selon les règles de la nature, ils ne peuvent pas sortir d'Égypte. Selon les règles de Elohim, telles que Kadosh Baruch Hu a créé le monde, ils ne peuvent pas sortir. Donc il y a ici à présent une intervention particulière, c'est celle du Shem Havaya Baruch Hu, Yudke Vavke. Et c'est là que intervient le miracle. Donc, pour passer de la conduite normale du Shem Elohim à celle de Yudke Vavke, le peuple juif doit se transformer en peuple et en nation. Donc le peuple juif ne peut pas être libéré en tant qu'individu. Les individus ne peuvent pas être libérés en tant qu'individu, ils ne peuvent être libérés qu'en tant que nation structurée et organisée. Et c'est en cela que Pessah est particulier. Pour ça que Pessah, dans le passouk, il est dit, quand on parle du Homer, il est dit que le Hag à Pessah, le premier jour de Pessah, est qualifié de Shabbat. Mahorat Shabbat ispiru hamishim yom. Le lendemain de Shabbat, vous compterez 50 jours. Donc il ne s'agit pas de Shabbat, il s'agit du premier jour de Pessah qui est ainsi qualifié. Et il est qualifié ainsi parce que ce n'est pas du fait des hommes que cette structure, cette conscience, qu'ils ont atteint cette conscience. C'est donné gratuit, ça vient du haut vers le bas. C'est ça le gilouï, c'est ça le véritable nes. C'est que les individus se sont considérés comme étant partie intégrante d'une nation structurée et organisée. Alors que jusque-là, ils n'étaient que des individus parmi tant d'autres qui subissaient un esclavage. Et ils étaient une peuplade, ils n'étaient pas un peuple organisé. Ça, c'est ce qu'on appelle Mohen de Gadlout. C'est la conscience adulte. Alors, le Hari Arkadosh explique que Avraham Avinu, il a demandé, la Gemara dit dans Nedarim, qu'Avraham Avinu, il a commis une faute. Quand lors du Brit Ben Abetarim, quand Jbokhu se révèle à lui et il lui dit, voilà, tu auras une grande descendance, etc. Et là, Avram Avinu demande à Kadosh Baruch Bama Eda ki irachena. Comment je vais savoir qu'il va en hériter? Alors ici, il est dit, tu auras une grande descendance et ta descendance héritera de Eretz Israël. Mais lui, il demande, comment je vais savoir comment, qu'il va l'hériter? Donc, quelle est la question véritable? Alors, a priori, Avram Avinu a manqué de foi, a manqué d'émouna. Donc, il va être sanctionné. Immédiatement, Kadosh Baruch lui dit, Yadoa Teda, qui guérit Ezaracha, donc il lui dit, c'est le Brit Ben Abetarim, il y aura un exil, tes enfants seront oppressés, 400 ans, et la quatrième génération reviendra ici. Donc c'est quoi? Les Farshim s'interrogent, comment est-il possible que Avram Avinu, quand bien même aurait-il fauté, pourquoi ce sont ses enfants qui payent la faute de leur père? Est-ce que les enfants payent la faute? Le Passouk dit, le Urto Banim à la Votam. Les enfants ne doivent pas payer la faute des pères. Alors ici, le Hari explique qu'en fait, Avram Avinu, il a voulu savoir, y avoir une garantie que la nation, sa descendance, sa multitude de descendants, c'est aussi nombreuse que les étoiles, ne soit pas une multiplicité d'individualités. Il voulait avoir la garantie que c'est une nation structurée, organisée, qu'ils héritent de la terre en tant que nation, et non pas en tant qu'individus qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Et c'est cette idée qui va... C'est pour cela que l'âme Israël va... Que la descendance d'Abraham va devoir subir l'exil, de telle sorte que la sortie de l'exil, l'exil en Égypte est donc considéré comme la matrice, et que l'âme Israël est en gestation, et que la sortie d'Égypte, c'est une nation structurée qui sort. Et ils sortent organisés en tant que nation, et tous adhèrent à cette nation-là. Donc ça, il faut avoir une conscience, ce qui prend aux nations du monde des centaines d'années pour s'organiser, avoir la conscience d'appartenance à une nation organisée. Et là, c'est en un instant. Dès que la Makat Bechorot est exercée, immédiatement ils sont rassemblés et sont une nation organisée. Et ça, c'est une conscience qui est donnée, Mil'ela et Tata, c'est-à-dire c'est donné du haut vers le bas. C'est cette conscience d'appartenance, de vouloir appartenir donc véritablement à une nation, c'est donné du haut vers le bas. À présent, c'est ça l'essentiel de Pessah. À présent, nous allons comprendre la réponse d'Akadosh Baruch Hu à Moshe. Moshe, il lui dit, tu les sors. C'est pour ça qu'il envoie Moshe. Moshe, c'est, nous avons dit, restez 344, c'est Shemad. C'est l'exercice des empires sur Israël. Les quatre empires vont exercer leurs droits sur Israël. Et à ce moment-là, la nation juive disparaît à nouveau. Comment elle va pouvoir se perpétuer grâce à Moshe? Moshe, il symbolise, Moshe, c'est un en plus sur le chemin, 345. C'est-à-dire qu'il y a Koah HaTorah. Donc ce Koah HaTorah va permettre à Israël de traverser les exils. Et quand bien même dans l'exil, nous sommes des individus, la nation, lors du Chorban Bet HaMikdash, la nation juive, en apparence est disloquée. Les gens ont été éparpillés, ils ne sont plus que des individus. Mais le Koah HaTorah, il permet que l'espoir de rétablir la nation, que cette nation se reconstitue, est toujours, c'est ça l'espoir du retour en Eretz Israël, de la venue du Mashiach. C'est l'espoir de reconstituer la nation. Et ça, c'est une véritable difficulté. D'ailleurs, dans Parashat Béchalar, nous disons que 4 cinquièmes ont refusé de sortir. 4 cinquièmes, Vahamushim, Alou Ben Israël, Mered Misraim, 4 cinquièmes ont refusé de sortir parce que justement, ils n'arrivaient pas à comprendre qu'ils ne sortaient pas en tant qu'individus, ils sortaient en tant que nation. Et ça, c'est très difficile à comprendre et à adopter. ça nécessite une madriga véritablement élevée. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé. À présent, où sont passés ces 4 cinquièmes qui ont disparu de la circulation? Alors nous avons constaté que les Am Israël qui sort d'Égypte étaient les qualifiés d'or d'Ea. Le d'or, une génération de connaissances, de conscience exceptionnelle. Et ces gens-là ne vont pas rentrer en Eretz Israël, ils vont rester en dehors. Ils nous disent, les Mfarshim, le Hari, le Ramamipanon, ils insistent sur le fait que ces gens-là sont arrivés au Tikkun. Ils rentrent pas en Eretz Israël et ils restent dans le désert, et Moshe Rabbeinu avec eux, et Moshe Rabbeinu en particulier pour leur permettre qu'à la fin des temps de la résurrection, parce qu'ils sont déjà prêts au tikkun haklali, tikkun hagamur, le tikkun final de la création, que la création soit amenée à son tikkun final. Donc ils sont en attente. C'est à leur propos qu'on dit ils dorment dans la poussière. Ils attendent. À présent, tous ceux qui vont venir dans les générations, c'est les autres 4/5 qui sont restés en Égypte. C'est cela. Tous les individus qui vont venir, au fur et à mesure, ce ne sont que les 4/5 qui ont refusé de rentrer en Eretz Israël. Et c'est pour ça que les 4 empires, les 4 galuyot, Keneged Arba Otiot Shem Havaya Baruch Hu. Et nous allons voir ici, dans la Haggadah, qu'on nous parle de 4 enfants. Le Passouk dit... le Baal Haggadah nous dit Baruch HaMakom Baruch Hu Baruch Shenatan Torah La'amo Israël Baruch Hu Keneged Arba Banim Dibra Torah. Il y a 4 fois le mot Baruch. Le mot Baruch, il est à comprendre comme étant le dévoilement. Il y a 4 niveaux de dévoilement qui correspondent aux 4 niveaux des quatre Galouyot. Donc Keneged Arba Banim, les 4 enfants, ce sont les 4. Chaque enfant représentant un des 4/5 qui n'est pas sorti. Et chacun va poser une question qui va amener la réparation de cette mida-là qui lui correspond. Et précédemment, mais juste avant, qu'est-il dit? Il est dit que nous avons une obligation fondamentale pour tout un chacun de raconter les miracles, de les développer, de rentrer dans les, d'expliquer le pourquoi et le comment, véritablement raconter cette histoire. Et on donne l'exemple. Alors c'est quoi le passage? Le Baal Haggadah nous dit, comme la Gemara a dit, Matril Begnout ou Mesayem Bishvach. On doit commencer par ce qui est désobligeant. Nous étions des esclaves de Pharaon. Avadi Manuel et Pharaon, ben mes frères, les esclaves de Pharaon. C'est-à-dire que nous n'avions pas d'existence propre. Les Bnei Israël n'avaient pas de statut. Ils n'avaient aucun statut. Pour avoir un statut individuel, mais ils n'avaient pas de statut en tant que nation. Et Akadosh Baruch Hu a produit, a exercé les miracles pour nous sortir. Et donc nous devons prendre conscience, raconter signifie développer, ça signifie comprendre ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Mais quand bien même serons-nous chachamim, etc., nous devons raconter. Raconter, c'est-à-dire trouver, approfondir les choses. Mais quand la marbé, c'est tout celui qui en rajoute, alors il est digne de louange. Et là, tout de suite, nous apportons l'histoire Maaseh b'Rabbi Eliezer, b'Rabbi Yoshua, b'Rabbi Lazar ben Azaria, b'Rabbi Akiva, b'Rabbi Tarfon, Shayum et Sobim b'Bnei Brak. Donc ici, on nous raconte en exemple qu'il y avait ces 5 rabbins, les Gdolei Atanaïm, qui étaient rassemblés à Bnei Brak. Alors, Bnei Brak, c'est la ville de Rabbi Akiva, nous disent les Mfarshim. Alors, quand on regarde... cette idée que c'est tous ces chachamim-là se sont réunis chez Rabbi Akiva, c'est assez étonnant. On remarque aussi היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם, les élèves sont venus, le matin, ils leur ont dit, voilà, c'est le temps, le jour s'est levé, c'est le temps de faire Kriyat Shema. Pourquoi les élèves n'étaient pas associés au maître? Pourquoi les élèves étaient à l'extérieur? Pourquoi ces 5 maîtres-là? Pourquoi cela, Dafka? Alors, en vérité, tous ces gens-là, Rabbi Eliezer, Rabbi Oshua, Rabbi Lazar ben Azaria et Rabbi Tarfon sont invités chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est lui le rab de Bnei Brak. Alors, et de quoi vont-ils parler? Là, ils sont en train de comploter, en fait. Ayoum et Saperim Betsiat Mitzrayim, c'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre à jour. On est là juste après la destruction du temple. On est là en train de mettre à jour la révolte. Comment faire que la nation juive retrouve sa souveraineté? Alors on sait que Rabbi Akiva, il a pensé, il était non sait quel âge chez Ben Bar Korva. Donc ici, on rassemble, Rabbi Akiva a fait rassembler ses chachamim. Rabbi Eliezer, qui constitue l'ensemble des personnages importants de la nation juive. Rabbi Eliezer, c'est l'école de Beit Shammai. Rabbi Yoshua, c'est l'école de Beit Hillel. Rabbi Lazar ben Azaria, c'est le prince, c'est l'exilat, le représentant politique. Et Rabbi Tarfon, c'est le pouvoir économique, c'est le banquier. Rabbi Tarfon est très riche. Donc tous ces rabbins-là, les 4 rabbins, vont donner carte blanche à Rabbi Akiva. Donc ils sont en accord avec Rabbi Akiva pour et faire en sorte que la révolte de Bar Korba soit menée, soit réussie, afin de reconstruire le temple, que l'âme Israël retrouve sa souveraineté. Et c'est ça l'idée qui est mentionnée ici. Pour ça que les élèves sont à l'extérieur pour surveiller. Après cela, on nous dit qu'il y avait 4 enfants. Baruch HaMakom Shenatan Torah L'Amo Israël Baruch Hu. 4 enfants. Les 4 enfants, comme nous l'avons dit, sont ces 4 éléments, chacun représentant un de ceux qui ne sont pas sortis. Les quatre groupes qui n'ont pas voulu sortir. Ces quatre groupes parce qu'ils sont qualifiés de 4 cinquièmes. Et on va s'apercevoir que si on fait attention véritablement aux questions de ces enfants, c'est que toute la difficulté, qu'ils rencontrent, c'est justement la conscience d'appartenance à une nation. Est-ce que la délivrance est une délivrance individuelle ou une délivrance collective? Est-ce que, d'ailleurs, le Chacham, que dit le Chacham? On va prendre l'exemple du Chacham. Le Chacham demande, Chacham a Omer, il dit, ma et d'autres. Que sont les haïdot? Donc il y a des mitzvot qui sont en souvenir de quelque chose. Shabbat, c'est un témoignage de la création du monde. Il y a hokim, des lois qu'on ne comprend pas, qu'on applique par Adouma. Mishpatim, c'est les lois qui gèrent la relation humaine. Alors pourquoi avoir fait? Il demande le Chacham de comprendre les différents aspects des mitzvot qu'il a accomplis. Et alors là, qu'est-ce qu'il est dit? Ve'afata emorlo. Et toi aussi, tu lui diras. Qu'il chote à Pessah, en maftiri mahar à Pessah à Ficoman. Donc, on n'a pas le droit de manger, aucun rapport, d'ailleurs, on ne lui répond pas. Mais on lui donne un exemple. De quoi? Que le corban de Pessah est mangé de manière, quand on est rassasié, nechal la sova, et on ne mange rien après. Pourquoi? Pour garder le goût du corban de Pessah dans. Garder vivant le goût du Corban Pessah. Et que représente le Corban Pessah? Le Corban Pessah, par excellence, c'est le symbole de la nation juive. C'est quand on mange le Corban Pessah, on mange B, c'est bas, en groupe associé. On mange ça comme si que nous étions, chacun était le seigneur de la nation juive. Qu'il n'y a aucun pouvoir au-dessus de lui. C'est ça le concept. Donc, on voit bien qu'on ne sort pas. Le Corban Pessah n'est pas. Bien que le Corban Pessah soit en fait un Corban Yahid, c'est un Corban individuel. Mais il est consommé et il est sacrifié et consommé en groupe. Ça signifie qu'il symbolise un microcosme de la nation juive. Et c'est dans cet esprit-là, c'est ça le Korban Pessah, il faut le consommer dans cette idée-là. Donc en le mangeant, comme il dit, disait Mkoubanim, quand on mange, on absorbe les énergies qui vont nous donner la conscience d'appartenance à cette nation juive. C'est ça l'essentiel. Et on va de même pour les autres questions des autres enfants. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a 4 enfants et pas 5. Parce que le concept de 5, c'est le Shem Elohim qui a 5 lettres. Alors que les 4 enfants, ils sont Kenegued, nous disait Parchim, Shem Abaya, les 4 lettres du nom Yudke Vavke. Et à chacune correspond à un tikkun particulier. Et chaque enfant correspond à une lettre, à une madriga particulière qu'il faut. Mais tous sont dans l'idée de réparer la raison pour laquelle ils ne sont pas sortis d'Égypte lors de Yetziat Mitzrayim. Justement parce qu'ils n'arrivaient pas à assimiler le concept de nation. D'ailleurs, quand les Bnei Israël vont faire le Hegel, la cause de cela, c'est qu'il y aura le Hegel. Alors, à quoi correspond le Hegel? Moshe Rabbeinu est monté, n'est pas descendu. Et ils se sont trompés de 6 heures. Donc 6 heures avant, ils ont pensé qu'il y a Ish Moshe, Boshesh Moshe. Bashesh, la 6e heure est arrivée, Moshe n'est pas là. Donc ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Alors qu'est-ce qu'il dit? Si on peut pas, on n'a plus le personnage qui nous guide à travers l'obscurité, le galoute, comme nous l'avons dit. Si on n'a plus ce personnage, alors il faut se retourner vers la conduite normale, le Haïgoul. Le Hegel symbolise, au lieu du Shem Havaya qui agit les Mahala Minateva de manière miraculeuse, on va se retourner dans le Hegel, le rond. Le Hegel fait référence à la conduite ronde du monde, celle de la nature, le normal, les règles normales. Et là, et c'est ça la faute du Hegel, c'est d'avoir voulu briser la structure de Hamisa, c'est-à-dire qu'on retombe dans l'individualisme. Nous ne sommes plus, du fait d'avoir fait le Hegel, on a presque brisé la conscience de la conduite surnaturel qui n'agit sur Israël qu'en tant que nation et non pas en tant qu'individu. Et quand bien même le miracle se produit sur l'individu, il ne se produit pas sur l'individu parce qu'il est un individu. Il se produit sur l'individu en tant qu'appartenant à la nation. C'est ça le concept de Pessah. Et c'est cette notion-là qu'il nous faut travailler, assimiler, méditer. Et il est très aspiré à ce concept-là, de retrouver l'appartenance, de ressentir l'appartenance à une nation malgré les différences. C'est-à-dire, quelle est la place de l'individu dans la nation? C'est un concept très, très particulier, très difficile. Et c'est ça l'idée des Arba Kossot, l'accélération du tikkun du manquement à la nation juive, ce qui a manqué aux 4 cinquièmes. C'est pour ça qu'on boit les kossotes pour accélérer, qu'il y a les arba les shonot chez le Géoula, qui correspondent aux quatre exils, aux 4 empires qui dominent l'armée israélienne. Et c'est ça les quatre enfants qui posent la question. C'est cette notion-là, et cette notion-là ne sera produite, s'exercera mille et mal. De la même manière qu'en Égypte, ça a été donné gratuit, c'est-à-dire c'est un dévoilement du haut vers le bas. Il en va de même pour la Geoula Atida, cette conscience qui se produira, c'est-à-dire qu'on atteindra un niveau d'adulte, c'est ce qu'on appelle Mochin de Gadlout, à un tel niveau qu'on adhérera de nous-mêmes C'est le miracle, c'est justement ce que Am Israël, chacun de Am Israël prendra conscience de cela et en sera convaincu. Et c'est ça qui produira, et c'est cette conviction, cette, cette, c'est ce Shefa qui viendra des cieux, qui produira la Géoula. Tant que nous avons l'espoir que de reconstituer la nation juive telle que elle s'est que cette idée s'est produite lors de la sortie d'Égypte, alors c'est pour cela qu'on fait Pessah, et le soir du Seder, c'est ça qu'il faut agir dans cet espoir, dans l'espoir que cela se produise de nos jours. C'est qui amènera le monde à sa réparation totale. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.